Bonjour à tous et bienvenue au jour 9 de notre défi 10-30, où des milliers de chrétiens partout à travers la francophonie, de tous les âges, tous les arrière-plans, quels qu'ils soient, ont pris la meilleure décision possible, la meilleure résolution possible en disant, pour les prochains 10 jours, je vais consacrer 30 minutes par jour à la prière, à la parole de Dieu, à prendre un temps avec Dieu. Et j'espère que ces courts messages, nous prions ensemble les prières de la Bible, que ces 10 prières sont une inspiration, sont un outil utile pour vous. Et aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, à l'épître de Jacques, au premier chapitre, et on va traverser l'épître de Jacques ensemble, pour une des prières les plus sous-estimées, une des prières les plus ignorées, une des prières aussi probablement les moins pratiquées. Et pourtant, pour moi, parmi les plus importantes, peut-être vais-je vous surprendre, mais si vous connaissez un peu le témoignage de l'Église Nouvelle-Vie, ce que Dieu a fait au milieu de nous, des 40 personnes du début à plusieurs milliers aujourd'hui, et l'implantation des églises et l'œuvre de Dieu qui se multiplie partout à travers la francophonie. Et très souvent, la question est posée, quelles seraient des clés, une des choses essentielles, etc. Pour moi, très souvent, une des réponses que je donne, que je vois dans les yeux de mes interlocuteurs qui les surprend le plus, une des prières pour moi les plus importantes à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ma vie et à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le royaume de Dieu, c'est une prière qui est trouvée dans Jacques chapitre 1, une prière pour la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle. Nous prions souvent pour les signes, nous prions pour le surnaturel, nous prions pour les solutions ou interventions de Dieu, nous prions pour les signes et la direction de Dieu, nous prions pour la sécurité, la protection, sur nos voyages, sur nos enfants et tout ça, eh bien, nous prions pour, c'est commun pour nous de prier pour que le Saint-Esprit se manifeste et comme c'est important, mais très peu prient comme il le devrait pour la sagesse, prier pour la sagesse spirituelle. Non, pas seulement la sagesse, une sagesse qui est basée sur l'expérience ou sur notre éducation, ou sur l'information, ou sur l'instruction, ou sur les années, la durée de nos vies, les expériences de nos vies, non pas une sagesse uniquement selon les standards du monde dans lequel nous vivons. Il y a plein de choses qui sont universelles, qui sont sages pour tout le monde et qui sont utiles pour nous aussi. Nous ne vivons pas en marge de la sagesse existante qu'il peut y avoir dans toutes sortes de sphères de ce monde. Mais il y a une sagesse qui n'est pas commune aux hommes, qui n'est pas celle des hommes, qui n'est pas trouvée dans les journaux, dans les médias, sur Internet, ou même ultimement sur un banc d'école, ou même ultimement au pied d'un enseignement religieux. C'est un enseignement, c'est une sagesse qui est spirituelle, une sagesse qui est renouvelable pour chaque situation. Pour moi, la meilleure définition de la sagesse, c'est de savoir quand et comment donner la bonne parole, faire avec la bonne action, avec la bonne attitude, à la bonne personne et au bon moment. La sagesse, ce n'est pas de toujours répéter ce qu'on a fait précédemment. La sagesse, ce n'est pas de tout balancer le précédent. La sagesse, ce n'est pas d'imiter d'autres. La sagesse, ce n'est pas autre chose que d'être à l'écoute de Dieu et d'avoir l'humilité de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi aujourd'hui. Je veux que vous appreniez à prier cette prière, de dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Et Jacques commence d'une façon extrêmement intéressante, son épître, un contexte des épreuves, un contexte de tout ce que nous traversons. Et c'est souvent dans les épreuves que nous aurions besoin de plus de cette sagesse surnaturelle, qu'on fait des erreurs, qu'on fait des choses précipitées, qu'on prend des mauvaises décisions, que l'on réagit au lieu d'agir, que l'on réagit selon nos émotions, notre chair, les influences extérieures, comment nous avons été élevés, notre hérédité, notre environnement, et non selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit, mes frères, regardez comme un sujet, Jacques, chapitre 1, verset 2 à 5, comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je crois que nous avons tous besoin de cette sagesse, mais nous avons besoin de reconnaître à travers les épreuves. L'apôtre Jacques enseigne que même à travers l'épreuve, si nous marchons avec cette sagesse de Dieu dans nos actions, dans nos décisions, dans nos motifs, dans comment nous agissons et interagissons, que l'épreuve va se transformer en bénédiction, que Dieu va l'utiliser pour nous changer, pour se glorifier, pour faire une œuvre au-delà de ce qu'on peut espérer. Et ce n'est pas quelque chose qui est intemporel ou qui est éthérique ou qui est vague. Tout l'épître de Jacques en entier nous donne différentes sphères. Jacques nous donne un panorama, un survol magnifique des différentes sphères de nos vies, souvent méconnues, où nous devons demander cette sagesse de Dieu. Et ce que nous allons faire dans cette portion de prière ensemble, c'est que nous allons simplement traverser l'épître, pour pas lire tous les versets, mais regarder les différentes sphères de nos vies dans lesquelles nous devons prier pour la sagesse de Dieu. Et je vais vous inviter à le faire en ce moment. Et lorsque ces quelques minutes vont être passées, qu'aujourd'hui, dans les prochains jours, vous puissiez réécouter et traverser l'épître de Jacques et apprendre à prier. Chacune de ces sphères sont devenues une partie intégrale de ma vie de prière. De prier pour la sagesse, par exemple, face à la tentation. Chapitre 1, le verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Chaque homme, chaque femme, nous allons être tentés à chaque jour. Tentés vers une action malhonnête, tentés vers une parole, une action, tentés vers une série de gestes qui pourraient entraîner des choses terribles, tentés dans une émotion, tentés de toutes sortes de façons. À chaque jour, disant « Seigneur, aujourd'hui, face aux tentations, ça c'est sûr qu'elles vont être là. Je ne serai jamais tenté au-delà de mes forces selon ce que ta parole promet. Pour chaque tentation, il y a un chemin pour en sortir. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi face à la tentation. Donne-moi sagesse face à la tentation. Sagesse dans nos émotions, nos relations. Sagesse face à nos tempéraments, à nos colères. Il dira ainsi, chapitre 1 et le verset 19, « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Combien de malheurs, combien de paroles qui détruisent, combien d'emplois perdus, combien d'abandon de choses importantes, combien de relations détruites, combien d'églises secouées, combien de gestes qui amènent des conséquences horribles commises par des chrétiens qui, par colère, qui n'ont pas pris au sérieux cet appel de dire « Seigneur, aujourd'hui, ayez l'honnêteté de dire « Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Est-ce que j'ai ce tempérament colérique? Est-ce que j'ai cette possibilité, cette capacité d'être prompt à une colère qui n'accomplira pas tes desseins? » Alors aujourd'hui, dans mes colères, dans les possibilités de colère, tentations de colère, dans mes émotions, dans mes relations, donne-moi sagesse. Et celui qui demande sagesse la recevra de la part de Dieu. Le fruit de l'esprit sera paix, sera patience, sera douceur, sera sagesse. Sagesse dans nos attitudes et décisions face à la parole qui nous est enseignée, chapitre 1, le verset 20 à 22. Comment allez-vous recevoir la parole de Dieu? C'est pourquoi, rejetant la souillure, mais recevant la parole avec douceur qui a été plantée dans vos âmes et la mettant en pratique en ne vous trompant pas vous-même par de faux raisonnements. Il y a des chrétiens que ça fait 30 ans qu'ils sont à l'Église et qui entendent la parole et ne semblent pas produire un fruit en eux parce qu'ils n'ont pas la sagesse de la recevoir, de la comprendre, de l'appliquer et de la mettre. Alors Seigneur, vous venez à l'Église, vous lisez la parole de Dieu, vous écoutez une prédication, vous êtes dans un groupe où on parle de la parole de Dieu. Cette humilité de dire « Seigneur, donne-moi la sagesse ». Donne-moi la sagesse de mettre en pratique ta parole pour qu'elle me transforme, de ne pas me tromper moi-même par de faux raisonnements. La sagesse dans nos paroles, vous lirez à la maison, chapitre 3, en entier consacré aux paroles, consacré à nos bouches, aux fruits de comment nous allons parler, la sagesse dans nos propos. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, nous dit le verset 10 du chapitre 3. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, la langue, aucun homme par lui-même ne peut la dompter. Mais Seigneur, donne-moi la sagesse dans comment je vais parler aujourd'hui. Donne-moi la sagesse dans nos attitudes, le pardon, dans nos relations interpersonnelles. Quel texte extraordinaire dans Jacques 3, lorsqu'il dit « Lequel d'entre vous est sage? » Qu'il le montre par ses œuvres, par une bonté, une bonne conduite, avec douceur, la douceur de la sagesse. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions et de divisions. Mais la sagesse qui vient d'en haut, elle est pure, elle est pacifique, elle est modérée, conciliante, pleine de bonté, pleine de bons fruits, et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous pouvez être un chrétien qui connaissait la Bible, connaissait la doctrine, mais au fil des années, avait été atteint, avait été blessé, et par ce qui est devenu un zèle amer. Un zèle amer qui provoque les disputes, qui provoque... Et il y a une progression terrifiante dans le texte qu'on a lu, où il parle d'une certaine sagesse, des gens qui se pensent sages. Et ça a commencé par le terrestre, qui est devenu charnel et qui est devenu diabolique. C'est littéralement des chrétiens qui, leur nature humaine a été blessée, la chair, la nature charnelle a pris le dessus, et à partir de cette humanité non soumise à la sagesse de Dieu. Il y a plein de gens, plein d'anciens et de nouveaux, mais d'anciens dans des églises, partout à travers la francophonie, qui se pensent super sages, qui pensent qu'ils connaissent tout, mais ils divisent et déchirent tout parce que du terrestre, le charnel a émergé et du charnel, le diabolique s'est emparé. Dieu n'a plus accès à agir à travers eux, c'est l'ennemi qui se sert d'eux. Alors, je viens devant Dieu à chaque jour après 30 ans de ministère. J'ai dit, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse à toi. Elle est conciliante, elle est paisible. Elle est remplie de douceur et elle porte un fruit de justice. La sagesse envers, dans notre gestion du temps, nos priorités, nos ressources. À vous maintenant, chapitre 4, verset 13, qui dit « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, nous travaillerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » La sagesse de demander à Dieu à chaque jour, dans les choses qui nous paraissent quotidiennes. Comme pasteur, j'ai vu des gens prendre des décisions financières sans consulter Dieu qui les a amenés à la ruine. Des investissements qui étaient pour être miraculeux qui a détruit leur famille. Des déménagements qui semblent anodins. On déménage, vend une maison, achète une autre maison, change d'emploi. Aujourd'hui, je fais ça. L'an prochain, c'est ça. Je fais mes plans. Voici mes plans. Voici mes... Et sans cette sagesse de Dieu, les décisions qui peuvent nous paraître les plus logiques, peuvent nous paraître les plus avantageuses à court terme, peuvent conduire à des fruits terribles. Et de l'autre côté, une des grâces que nous avons vécues, c'est la nouvelle vie, 20 ans sans division, 20 ans sans scandale, 20 ans sans mauvaise décision à annoncer à l'Église qu'on a fait quelque chose de terrible et qu'on est en difficulté, non pas parce que nous sommes particulièrement doués ou non, mais une recherche continuelle de Seigneur. Nous voyons tellement de façon limitée, tellement éphémère, mais toi, tu es alpha, oméga, le commencement, la fin. Tu es la première page et la prochaine page. Tu savais tout ce qui était pour arriver, ce qui est et qui sera. Alors, Seigneur, nous venons à toi et je veux que chaque année, chaque journée, chaque décision, chaque emploi, chaque étude, chaque ministère, je te le remets entre tes mains. Je veux que mon année compte et dans mon emploi du temps, de mes ressources, de mes finances, de mes talents, de mes décisions, je te demande ta sagesse. Et je terminerai avec ceci. La sagesse, Seigneur, donne-nous la sagesse envers ceux que tu diriges sur notre chemin qui peut-être vivent des épreuves ou même se sont éloignés de Dieu. C'est ainsi que Jacques termine son épître. Il nous parle de cette prière d'Élie qui a ouvert le ciel, fermé le ciel, ouvert le ciel. Il a prié à nouveau et le ciel a donné la pluie, la terre produisit son fruit, chapitre 5, verset 18. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vérité et qu'un autre y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Pour des gens qui se sont vraiment éloignés de Dieu et que vous ne savez plus comment les ramener au Seigneur, vous avez tout essayé, vous avez tout dit, vous avez essayé toutes les approches possibles, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Et aussi pour des gens que vous ne soupçonnez pas le combat qu'ils vivent, si vous êtes disponible à Dieu, il peut se servir de vous. Je termine avec ceci. Il y a plusieurs années, je revenais d'un voyage de ministère. Il y a un jeune homme de l'Église que je connaissais bien. Je ne savais pas ce qui se passait dans sa vie à ce moment-là, qui avait déjà exprimé avoir ressenti un appel à servir le Seigneur et qui vient me chercher à l'aéroport et on est dans la voiture ensemble et il commence à me dire à quel point il est découragé, à quel point il vient de loin dans son arrière-plan familial. Il me dit, c'est une chimère que je veux le suivre, le Seigneur. Si tu savais le passé que j'ai, Pasteur Claude, et je ne pourrais jamais être dans le ministère. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne suis pas capable. Et je voyais des nuages tellement sombres de découragement sur lui. Et alors qu'on était ensemble dans la voiture et qu'il me racontait tout ça, puis je viens de tellement loin, nous étions sur une autoroute qui passait sur une voie rapide à quelques kilomètres d'où j'ai grandi. Et c'est pas quelque chose que je ferais à chaque semaine, c'est pas quelque chose de commun. Mais j'ai vraiment eu à cœur de faire ceci. Je lui ai dit, écoute, sors ici. Il m'a dit, non, mais c'est pas là pour aller à l'église. Je lui ai dit, non, sors ici, prends cette sortie. On a sorti ensemble, on a traversé la ville et je l'ai amené jusqu'à devant un bloc dans un quartier pas mal défavorisé de Montréal. Et au au sous-sol, un petit appartement, puis il me dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Et je lui dis, regarde, c'est là que c'est dans cet appartement-là que j'ai grandi. J'ai commencé à lui raconter que dans cet appartement où j'avais grandi, il y avait violence, il y avait alcoolisme, il y avait blasphème, il y avait tout. On ne pouvait pas être plus petit, plus écrasé, plus loin de Dieu. Et que Dieu avait décidé de me prendre de cet appartement-là et de me permettre d'aller dans les nations. Et on a passé 30 minutes dans la voiture, puis on s'est mis à prier ensemble. Et alors que je priais pour lui, des paroles d'encouragement, des paroles. Et lui m'a dit plusieurs fois dans la suite des temps que c'est devenu un moment marquant pour lui dans sa vie. Aujourd'hui, sans le nommer, il est pasteur d'un des plus grands groupes de jeunesse de toute la francophonie entière, avec des centaines, 400, 500 jeunes adultes. C'est un jeune homme de Dieu, lui et son épouse ont un avenir extraordinaire devant eux. Et je crois que le Seigneur m'a fait la grâce de me donner ce jour-là une parole que l'apôtre Paul appelle une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de vie. Que celui qui manque de sagesse le demande à Dieu, qui donne librement, et elle lui sera accordée. J'ai l'humilité de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Et vous, si aujourd'hui, demain, à travers chaque saison de votre vie, vous dites avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Traversez avec moi ces différentes sphères de vos vies. Les pas d'un homme juste sont ordonnés de l'Éternel. Il va vous conduire dans les œuvres préparées d'avance qu'il a pour vous. Priez pour la sagesse de Dieu.